filigrana imprecisa. Um toque de calçada e palavras imensas sussurram olhares precisos. Na Divergência FM.
Filigrane imprécis. Poésie, littérature, musique, lignes chaotiques, murmures clamés d'un chant portugais sur Divergence FM. Filigrane imprécis sur Divergence FM, le 93.9, une émission proposée par l'association Casamadis, l'association culturelle de langue portugaise de Montpellier. Florent Robin au micro et je suis avec le président de Casamadis, Tito Livio Santos Mota. Bonjour Tito.
Bonjour.
Eh bien, c'est le rendez-vous hebdomadaire où nous allons parler donc de la culture, des cultures de langue portugaise. On va commencer tout de suite par faire un petit rappel des activités de Casa Amadis. La prochaine activité importante, Tito, eh bien, c'est un repas.
Un repas
que l'on fait tous les ans dans la lignée, dans la foulée de la commémoration du 25 avril, de la révolution des œillets et de la commémoration d'indépendance des pays africains lusophones. Alors cette année, ce repas, ça va être à notre local, donc à l'espace Jacques Ier d'Aragon, 117 rue des États Généraux à Montpellier, tramway Rive du Lez. Voilà. Et donc ça sera le 1er mai.
Ça sera le 1er mai, ce qui va très bien, puisque après le 25 avril, il y a eu le 1er mai.
Et alors, qu'est-ce que tu nous as concocté? Je sais que tu as été avec Marie-Ange, vous avez parlé de menus, de morue, de plein de choses prévues.
La morue sera une entrée et un plat principal, il y aura calderada, c'est-à-dire une espèce de ragoût de poisson.
Oh, et qu'est-ce que tu vas faire comme morue en entrée?
Un bacalhau fiado.
C'est quoi ça?
C'est pas tout à fait une entrée, mais on va l'arranger en entrée. Tu vois.
Ah, et donc ça sera le 1er mai, c'est à quelle heure?
C'est à partir de 19h30 pour l'apéro.
À partir de 19h30 pour l'apéro, et puis après, ça se finit à pas d'heure, généralement.
Voilà.
Et il faut rappeler que le prix, quand même, pour s'inscrire, parce qu'il y a un nombre de places limité, donc il faut s'inscrire auprès de Casa Amadis, et le prix, c'est 15 euros.
15 euros, oui.
Hein, tout compris.
Il faut se presser parce que ça commence à...
Ça commence à se remplir. Hein.
Oui.
Donc, si on veut s'inscrire, donc, vous téléphonez à Casa Amadis. Tu peux nous rappeler le téléphone?
04 67 64 02 75.
On répète encore une fois?
04 67 64 02 75.
Et il y a un répondeur au cas où on n'est pas là.
Et il y a un mail, c'est mieux préparé.
Ah, le mail, oui, vas-y.
Amadis. _ bon, souligné, montpellier@yahoo.fr.
Voilà, sinon, cette semaine, Tito, tu as été à Nîmes, tu as été invité par le consulat.
J'étais en représentation du consulat à Nîmes.
Qu'est-ce qui se passait à Nîmes?
Alors, il y avait une réunion avec le rectorat pour distribuer l'enseignement des langues qu'ils appellent encore langues et cultures d'origine. Donc, pour ce qui était des effectifs en portugais. Mais l'intéressant de la chose, c'était qu'il y a de nouvelles orientations et que, à mon avis, vont dans le bon sens, pour une fois.
À savoir?
C'est-à-dire que les langues et cultures d'origine ont tendance à devenir uniquement langues et cultures. Ce qui fait qu'on n'aurait plus d'obligation d'origine pour participer à ces classes. Et donc, ils ont commencé déjà cette année par l'arabe. Donc, il n'y a plus des classes de Tunisiens, des classes d'Algériens, des classes marocains, mais ils font des classes communes. Mmh. Et donc, le portugais aussi. Et on va pouvoir inscrire tous les lusophones et aussi des Français dans les classes de portugais, ce qui est une très bonne idée.
C'est une bonne chose.
C'est une bonne chose.
Alors ce matin au programme, il y a plusieurs choses de prévues parce que vous savez que nous commémorons cette année le 100e anniversaire de la République portugaise. Donc nous allons préparer une expo pour la rentrée. Ça sera quand l'expo, Tito?
Alors déjà, le repas est sous le signe de la République. Donc on va faire ça très cocardier, avec tout en rouge et vert, etc. On va bien s'amuser avec ça.
Cocardier à la sauce portugaise.
Oui, j'ai déjà une Marianne, mais lui manque les seins. Donc il va falloir que je trouve quelqu'un pour me mouler des seins à la Marianne, parce qu'une Marianne qui n'a pas de seins, ça ne marche pas. Et il faut qu'elle soit patriote, comme dit, hein, qu'il y ait du monde devant le con. Et évidemment. Et sinon.
La République a besoin de Robert.
Voilà, la République nous appelle, etc. Bon. Et à la rentrée, on aura deux expositions, une sur le néoréalisme, notamment sur Soel Peregomes, qui était un très grand écrivain. Sera avec, en collaboration avec le musée du néoréalisme.
De Villafranca.
De Villafranca de Chile. Et en même temps, on va faire une exposition sur les 100 ans de la République portugaise. Et qui sera donc aux alentours, sera inaugurée la semaine du 5 octobre, donc du 4 octobre, elle commence le 4. Parce que le 5 octobre, c'est le centenaire de la République portugaise.
Une date importante donc à retenir. Et on va en parler un petit peu plus avant, on en parlera un petit peu ce matin des droits des femmes qui sont venues avec la République. Mais pour l'instant, ben, on va parler de femmes, on va parler d'une chanteuse qui s'appelle Missia, avec un premier titre. Missia va nous accompagner toute la matinée. Filigrane imprécis sur Divergence FM, le 93.9. Missia, qu'est-ce qu'on vient d'entendre de Missia, Tito?
Alors, Ponte Finale, paroles et musique de José Niza.
Voilà, nous allons parler un petit peu de la République, puisque c'est la commémoration, comme je le disais tout à l'heure, de la République portugaise qui a vu le jour en 1910, donc c'est le centenaire. Et tu as choisi ce matin, Tito, de nous parler d'un point plus précis, c'est-à-dire des droits des femmes avec le... La venue de la République, qu'est-ce qui s'est passé?
Déjà, la République a séparé l'Église des États, donc l'État des Églises, plutôt. Et ça, c'est un point très important, puisque la loi a cessé d'être assujettie à la morale catholique. Mmh. Et donc,
t'as premier pas de progrès, généralement.
Exactement. Donc, il y a plusieurs points. Bon, il faut dire que bon, la monarchie avait donné quelques droits aux femmes. Hein, déjà, le Code civil de 1867 avait déjà accordé pas mal de droits, notamment dans le mariage, droits de propriété, droits sur les enfants, par exemple. Les enfants n'étaient plus uniquement les enfants du mari, mais aussi les enfants de leur mère. D'ailleurs, par exemple, au Portugal, on nous dit toujours qu'on a des noms à rallonge. En fait, on a des noms parce qu'on a le nom de notre mère et le nom de notre père.
Alors toi, ça donne...
Puisque nous sommes aussi les enfants de notre mère.
Alors toi, ça donne Tito Livio Rodriguez, qui est le nom de ta mère, Dos Santos Mota, qui est le nom de ton père.
Exact.
J'ai bientôt compris.
Oui.
Alors, ce droit des femmes.
Alors,
droits des femmes.
Alors, bon, ça a été très lent. Déjà, sur la monarchie, il y a eu quelques avancées, comme par exemple, il y a eu des femmes qui étaient... obtenu des diplômes de médecine et des choses comme ça. Par exemple, Caroline et Michael, ils enseignaient déjà au cours de lettres à l'université à partir de 1905, même si elle a été nommée à sa chaire sous la République. Mais c'est la République qui va donner surtout vraiment des droits parce que par la constitution de la République, on a eu l'égalité dans le mariage, c'est-à-dire les femmes et les hommes étaient considérés à égal dans le mariage.
Ce qui n'était pas le cas avant.
Il y avait la notion de chef de famille, que par tradition était surtout l'homme. On considérait a priori que c'était l'homme le chef de famille, mais par exemple, une femme pouvait être chef de famille. Et c'était le cas, surtout évidemment, quand elles étaient veuves. Ou divorcer, puisque la République aussi a donné le droit de divorce, avec égalité aussi pour les hommes et pour les femmes. Les femmes avaient même droit de demander le divorce que les hommes. Et pour les mêmes motifs, par exemple, l'adultère, qui était motif de divorce à l'époque, mais était reconnu à égalité pour les hommes et pour les femmes. Ce qui n'était pas le cas dans la plupart des pays.
Il faut rappeler qu'en France, ça a été très tardif aussi, tout ça. Si je ne m'abuse, la femme avait été considérée comme mineure toute sa vie, jusque dans les années 70.
Alors, les femmes vont redevenir mineures par l'État fasciste. L'État fasciste va les rendre mineures, tout en leur donnant le droit de vote, ce qui est quand même quelque chose de très bizarre, puisque il faut comprendre pourquoi. Il faut comprendre surtout... que la gauche a été très conne dans cette affaire.
Ça lui arrive.
Partout. Les femmes ont eu très tard le droit de vote en France, pour la même raison. C'est-à-dire, la gauche était convaincue que les femmes allaient voter comme le curé leur indiquait, et que donc c'était donner le vote à la réaction. La droite, évidemment, catholique et réactionnaire, elle ne voulait pas donner le droit de vote aux femmes parce qu'elle considérait que les femmes n'étaient pas des êtres majeurs. Donc c'était le mari qui devait décider. Donc donner le droit de vote aux femmes, c'était donner un droit de mec à des femmes, à de simples femmes. Et donc, de là, cette ambiguïté. Moi, j'ai lu un article où des féministes disent les opinions des républicains sur les femmes. Bon, les opinions des républicains sur les femmes étaient les opinions de l'époque, la femme aimante, la femme mère, etc. Mais c'est pas ça la question. C'est pas pour ça qu'elles n'ont pas eu droit de vote tout de suite. C'est parce qu'en fait, la gauche avait peur du vote féminin. C'est tout bête, c'est très con, c'est la même chose qui se passe maintenant avec les immigrés.
Oui.
La gauche est convaincue que les immigrés vont voter à gauche, et la droite qui vont voter à droite, qui vont voter à gauche. Donc la
c'est
droite,
l'inverse, c'est l'inverse.
Voilà.
La gauche est convaincue qu'ils vont voter à droite, et la
elle est plutôt convaincue qu'ils vont voter à gauche, donc mais elle a peur de l'électorat plus centriste. Donc elle a peur d'avancer dans ce sens-là. Et de l'autre côté, la droite est convaincue qu'ils vont tous voter à gauche, donc elle ne veut pas. Et donc on est dans cette impasse par rapport au vote des immigrés, parce que les gens sont convaincus de ça. Alors que c'est complètement con, et qu'à mon avis, il y aura de grosses surprises le jour où les immigrés vont voter, parce qu'ils ne vont pas forcément voter comme les gens croient qu'ils vont voter.
Mmh.
Pour la petite histoire, c'est connu que beaucoup de vieux immigrés dans les banlieues ont voté Sarkozy, parce que par opposition, parce qu'ils trouvaient que Sarkozy allait un peu mater les sauvageons. Hein. Ça ne veut pas dire que dans l'ensemble, ils ont voté Sarkozy, mais il y en a eu beaucoup. Et ça surprend les gens. Mais il n'y a rien de surprenant. Les gens ne votent pas forcément. Là, on attend. On n'est pas propriétaire de ses voix. Et surtout, les gens... Il y a des grands bourgeois qui votent à gauche. Il y a des ouvriers qui votent Front National. C'est complètement stupide d'avoir ce genre de catégorie. Et empêcher surtout les gens d'obtenir des droits parce qu'on pense qu'ils vont être contre nous. Et là, c'est tout à fait le cas avec les femmes. Tout le monde était convaincu, les uns par atavisme qu'il ne fallait pas, et les autres qui elles allaient voter contre, disons, leurs bienfaiteurs, en quelque sorte. Quoi. Alors qu'aujourd'hui, on sait que globalement, les femmes votent plutôt à gauche, plus à gauche que les hommes. Si on prend un par un les votes, on sait que les femmes, en règle générale, votent plutôt plus à gauche que les hommes.
Et alors cette République, qu'est-ce qu'il y a eu comme autre droit pour les femmes ?
Alors, il y
avec
y a
la,
eu...
la naissance de cette République.
Bah, il y a déjà l'égalité donc dans le mariage, la filiation, le droit d'être chef de famille. Il y a eu une femme qui a voté aux élections de 1911 puisqu'il y avait une omission. C'était une féministe et elle était avocate et donc elle a elle a argué qu'il n'y avait pas de raison de ne pas être inscrite sur les listes électorales puisque c'était pas marqué, le masculin est neutre en droit et que si on voulait empêcher les femmes de voter, il fallait absolument marquer que les femmes n'avaient pas le droit de voter.
Donc il y avait un vide juridique à la
Donc profiter. Un citoyen, c'est un citoyen homme et un citoyen femme. Et elle a voté. Sur quoi en 1913 ils ont changé la loi, ils ont bien marqué que les femmes n'avaient pas le droit de voter. Donc ça c'était pas une grande réussite, disons. Bon, il y a d'autres avancées. Bon, mais Caroline Michaels a été nommée professeur des universités en 1912. Il y a par exemple les premières femmes académiciennes.
Alors en France, il a fallu attendre des années 80 quand même.
Il y a eu en 1920 la mixité, l'autorisation de mixité pour les lycées, par exemple, que les femmes puissent s'inscrire dans les lycées masculins. Les premiers lycées avaient été créés par décret en 1890, mais ils ont été effectifs en 1905, le temps de construire quand même les premiers lycées féminins. Mais là, on a donné, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, il y avait un lycée par département. C'était pas comme maintenant. Et donc, empêcher les femmes, les filles de s'inscrire dans les lycées masculins, c'était un peu n'autoriser l'inscription dans les lycées qu'aux filles qui étaient dans les très grandes villes. Et donc, à partir de 1920, elles ont le droit de s'inscrire dans les lycées masculins. Donc, c'était en fait finir avec les lycées masculins et les lycées féminins. Mais c'est drôle que ce n'est que 6 ans plus tard qu'on donne l'autorisation aux femmes d'enseigner dans les lycées masculins, ce qui est toujours rigolo, ce genre de bêtises légales.
Bah, c'est comme en France où, pendant le Front populaire, il y avait des femmes qui étaient ministres ou secrétaires d'État alors qu'elles n'avaient pas le droit de voter.
Oui. Il n'y a pas eu de femmes députées, par exemple, sur la Première République. Bon, pour des raisons logiques, puisqu'elles ne pouvaient pas voter, elles n'étaient pas sur les listes non plus, elles n'étaient pas sur le corps électoral. Mais c'est aussi le fascisme qui a donné les premiers postes de secrétaire d'État, de député par exemple, à des femmes. Il y a eu 3 femmes. Mais quelles femmes ? Voilà, c'est ça. Il y a liberté et liberté. C'était des femmes catholiques, conservatrices, réactionnaires qui, au contraire, œuvraient contre les droits des femmes. Donc, c'est.
Les Boutins de l'époque.
Voilà. C'était les Christine Boutin de l'époque. Donc, ça suffit pas de donner le droit de vote aux femmes et de leur donner des l'égalité pour obtenir forcément des meilleures lois. C'est pas parce qu'on est femme qu'on est plus intelligent que les autres et vice versa. Et donc, il y a des femmes qui sont contraires aux droits des femmes, comme il y a des immigrés qui sont contraires aux droits des immigrés. Ça existe aussi, ça existe. On en connaît.
Alors, je n'ai pas très bien compris, le droit de vote des femmes au Portugal, ça, il a fallu attendre en fait.
Le droit de vote des femmes, bon, il y avait eu une première loi en 1925, mais il a été effectif en 1931. pour les élections après 1933, pour la constitution de la République, mm-hmm. de l'État nouveau, du fascisme. Mais c'était, de toute façon, c'était que les gens qui avaient que des femmes qui avaient des études supérieures qui avaient le baccalauréat. Elle avait son baccalauréat, donc ça veut dire que le corps électoral était lilliputien. Hein.
C'est minuscule, oui.
Oh, il devait y avoir 200 ou 300 de femmes qui avaient le droit de vote, je ne sais pas. Quelque chose comme ça. Bon, pour donner une idée, ma grand-mère a fait ses études supérieures. Elles étaient 10 en pharmacie, dans sa classe. Pas dans l'ensemble de la faculté, mais dans sa classe. C'est-à-dire, dans l'année où elle s'est inscrite en pharmacie à Porto, il y avait 10 femmes qui sont inscrites en pharmacie.
C'est pas énorme.
Non, non. C'était vers 1930-32, pardon.
Et alors, les autres droits des femmes, il n'y a pas eu que ça, quand même. Il y a eu d'autres choses.
Moi, je n'ai pas trop de détails, parce que c'est difficile. C'est très con, les comptes rendus, par exemple. Ben, j'avais vu il n'y a pas longtemps, mais je n'ai pas retrouvé, par exemple, la date à laquelle les femmes ont eu droit de signature d'échecs. Mmh. Par exemple, bon, il y a une chose, c'est que sous la République, les femmes avaient le droit, par exemple, de créer des entreprises sans l'autorisation de leur mari. Avaient le droit de commerce, le droit d'exercer une profession. Alors que sous le fascisme, elles ont perdu ce droit. C'est peut-être pour ça aussi qu'il n'y a pas dans les listings. On oublie un peu. Normalement, quand on fait des listings, on va par avancée. Mais les choses ne vont pas forcément en progression comme ça. Des fois, il y a des reculs. Par exemple, le droit de divorce a été enlevé aux catholiques en 1940 par le Concordat.
Ah oui.
Et on a créé, par exemple, alors que la République avait donné, par exemple, fini avec les enfants illégitimes, c'est-à-dire obligation pour l'homme, c'était surtout pour l'homme, hein, l'obligation de reconnaître tous les enfants, ses enfants naturels, sous le fascisme, avec les lois sur la famille, l'homme a cessé d'avoir cette obligation, et donc il a été créé recréé le statut d'enfant illégitime. Même quand il était reconnu par le mari, il était illégitime si né hors du mariage. Mmh. Et ça a été enlevé qu'en 1975 ou 1976.
Oui, avec les œillets.
Avec la révolution des œillets.
Donc, si j'ai bien compris, il y a eu des avancées lentes quand même avec les débuts de la République. Il y a eu un recul avec l'arrivée du fascisme, avec l'arrivée de Salazar. Et donc, les choses ont un petit peu explosé. C'est avec 74.
Mais oui, même si, par exemple, il y a des choses que les femmes, par exemple, avaient un droit qu'il n'y avait pas en France, par exemple. Elles ont toujours eu le droit d'être, par exemple, chargées d'éducation. C'est-à-dire, par exemple, de signer les papiers scolaires, d'inscrire leurs enfants dans les écoles sans avoir besoin de l'assentiment de leur mari.
En France, c'était le chef de famille, donc l'homme.
Voilà, exactement. Mmh.
On va faire une petite pause musicale, on va retrouver Missia avec un autre titre sur Divergence FM.
Sobre o monte, no meio da
FM le 93.9 sur Filigrane Apprécie, l'émission consacrée aux cultures de langue portugaise. Alors Tito, ça nous parlait de ta ville, ça ?
Oui, de Porto. Alors, nous parlons... C'est rue Volose.
Voilà, oui. De Porto. C'est vrai que tu es de Porto, mais tu as vécu à Lisbonne, dans la banlieue de Lisbonne. Donc voilà. Donc
oui, Misia
va nous accompagner toute cette petite matinée. Voilà, on parlait des droits des femmes de la République portugaise, dont nous célébrons le 100e anniversaire. Et on n'a pas parlé de l'accès à la magistrature pour les femmes.
Oui, ça date 1918. Mais en fait, le droit d'être juge à cause de la période fasciste n'a été effectif qu'après le 25 avril. Les premiers juges femmes, c'était après le 25 avril.
Il y a beaucoup de choses qui se sont débloquées, en fait, après le 25 avril.
Ben, la Première République n'a duré que 16 ans. Mmh. Avec la Première Guerre mondiale au milieu.
Ça n'aide pas.
Non, ça n'a pas aidé. Ça n'a pas aidé. Mais la Première Guerre mondiale a aussi provoqué pas mal de changements, comme tout le monde sait. Donc les femmes ont été appelées dans les usines et des choses comme ça. Donc ce qui a donné, par exemple, des droits, ça nous amènera aussi un jour à parler des droits des travailleurs, par exemple, puisque la République a donné le droit de grève et des choses comme, et de lockout. Et c'est la Première Guerre mondiale qui a fait la journée de 8 heures, qui a fait des choses comme ça. puisque c'était quand même un grand choc pour tout le monde. Et l'effort de guerre, etc., a fait prendre conscience de pas mal de droits, notamment, évidemment, les droits des femmes aussi.
En France, il va falloir aussi attendre beaucoup de temps, comme je le disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a des droits qui vont être faits après la Première Guerre mondiale, il y en a d'autres qui vont se faire après la Seconde, et puis il y a des droits qu'on n'obtiendra que dans les années 70 en France.
Oui, on parlera aussi de la participation des Portugais à la Première Guerre mondiale, et leur non-participation à la Seconde. C'est intéressant aussi de savoir pourquoi. Et l'un ne va pas sans l'autre. Mais y a une chose à dire sur la Première Guerre mondiale, tant qu'à faire, c'est qu'il faut imaginer que la Première Guerre mondiale se passe en France, donc très très à 2000 km du Portugal. Les deux fronts qu'on a menés, un en Afrique, où on a gagné, et l'autre en France, qui était assez désastreux pour nous, puisque le Portugal n'avait pas d'infanterie. Ni n'était pas préparé pour des guerres continentales et guerres européennes. Il faut penser que c'est une guerre lointaine. C'est une guerre lointaine pour nous. Et donc, ça explique mieux aussi pourquoi tout d'un coup, on s'est rendu compte que un pays où les hommes partent, quittent le pays, les femmes peuvent... on peut faire fonctionner le pays quand même grâce au surplus porté par des
femmes. Grâce au travail des femmes.
Au travail des femmes et aux efforts des femmes, notamment même au foyer aussi, de maintenir et donc ça c'est pas par hasard que le Portugal qui est un pays de marins, un pays de commerçants et de navigateurs. Pour certains côtés, il y a une certaine conscience de ça, que les femmes qui restent, bon, elles tiennent quand même le gouvernail quand même. Donc, voilà.
Voilà, de toute façon, on va y revenir sur cette Première République durant toute l'année, puisque tu vas aborder toutes les semaines un petit sujet comme ça. Cette semaine, ce sera les droits des femmes. La semaine prochaine, peut-être que tu parleras plus abondamment de ce qui s'est passé pendant la guerre 14, pendant la Première Guerre mondiale. Il y aura les droits des travailleurs aussi, qu'on va essayer d'évoquer au fur et à mesure de cette année.
Absolument.
Voilà. On va changer un petit peu abruptement de sujet, puisque la semaine dernière, on avait commencé à vous parler de Álvaro do Campos, alias Fernando Pessoa, parce qu'il y a un événement quand même qui va se passer très bientôt, au Théâtre des 13 Vents, que l'on fréquente abondamment, Tito et moi, puisqu'il va y avoir l'Ode maritime de Fernando Pessoa, mise en scène par Claude Régis, qui va être montée du 7 au 10 avril. Et donc, on a décidé d'en profiter pour faire un petit hommage à Álvaro do Campos et à Fernando Pessoa.
Alors, le problème, c'est que ça arrive avec un succès dans toute la France. Ils ont fait ça au comble partout, à Toulouse, à Paris, un peu partout. Et ça se termine à Montpellier, la tournée. Et donc, il n'y a plus de place du tout.
On avait eu quelques places à Casamadis. Dès qu'il y avait eu la billetterie qui avait ouvert au mois de septembre, on avait acheté quelques places. Mais toutes les places qu'on avait ont été vendues. Donc,
oui.
Pas de facile si vous n'avez pas encore de place pour en trouver.
Il n'y a qu'un moyen, c'est d'arriver le jour même pour prendre la place des personnes qui ne viendront pas. Parce qu'il y en a toujours qui ne viennent pas. Voilà. Des gens qui ont acheté, des abonnés, etc., qui ont acheté très longtemps en avance. Et qui viendront pas, et là, il y aura des places.
Peut-être, mais pas très nombreuses. On va parler un petit peu de cette ode maritime, qui est peut-être l'œuvre la plus connue de Álvaro do Campos. Après une troisième pause musicale, on retrouve Missia tout de suite sur Divergence.
Vendendo a minha fruta de azeite. saudade é dentro de mim própria que eu tropeço. Lisboa, dai volta que navega no terreiro do passo. Por acaso encontro a dimensão da minha entrega no aterro onde me enterro a curto prazo. Palha podre de tédio, rio surpresa desta Lisboa de água que só falha quando do céu azul sobra tristeza. Lisboa, meu amor, minha aventura, em cada beco só uma saída. Em Lisboa, gaivota que navega no terreiro do passo, por acaso encontro a dimensão da minha entrega no aterro onde me enterro a curto prazo. Nesta angústia que eu canto, Lisboa, Lisboa, não vem ao caso.
Filigrane imprécis sur Divergence FM 93.9. Qu'est-ce qu'on vient d'entendre, Tito ? C'est Misia toujours, Misia.
Oui, c'est la cidade de Ari dos Santos.
On en parlera peut-être un peu plus abondamment de Misia et de ce poète dans les semaines à venir. Pour l'instant, on va continuer à parler de poésie, puisque nous allons parler de Fernando Pessoa. La semaine dernière, comme je le disais, on a commencé à présenter un petit peu l'œuvre d'Alvaro do Campos. Alvaro do Campos, c'est l'un des hétéronymes de Fernando Pessoa. Qu'est-ce que c'est qu'un hétéronyme ? Ben, c'est un autre lui-même, c'est-à-dire que Fernando Pessoa a inventé d'autres personnalités à partir de lui-même, qui ont leur style, qui ont leur œuvre, qui ont leur biographie. Il y a même des correspondances entre ces hétéronymes et Fernando Pessoa et entre les hétéronymes entre eux. Et Alvaro do Campos, c'est peut-être le plus exubérant des hétéronymes de Fernando Pessoa. Je rappelle quand même que Fernando Pessoa a imaginé plus de 70 hétéronymes, ce qui est énorme, et que le dernier qu'il devait créer, qu'il n'a pas eu le temps de créer, ça devait être une femme qui s'appelait Daisy.
Alors, Albert Campos est quand même le plus proche de la personnalité de Fernando Pessoa.
Par certains côtés.
Par certains côtés.
En même temps, il est très différent.
Dans l'ode maritime, il y a des références, par exemple, au travail qu'il exerçait véritablement Fernando Pessoa en tant que fonctionnaire des entreprises maritimes. Et il y a des passages dans l'ode maritime où il parle de ça. Donc c'est un jeu là.
Mais l'ode maritime, c'est, il faut pas oublier que c'est un genre récurrent.
Il voit ce bateau des fenêtres de son bureau dans une entreprise d'import-export. Donc
c'est vrai que Fernando Pessoa a eu comme travail un travail de petit fonctionnaire quand même,
oui.
ce qui semble un petit peu curieux quand on voit l'œuvre énorme qu'il a laissée. C'est vrai que même au niveau physique, il avait un physique de petit fonctionnaire.
Oui, mais tout le monde était comme ça à l'époque. Tout le monde. J'ai bien connu ces personnages-là, même chez moi. Mon grand-père était tout à fait avait ce physique-là et s'habillait de cette façon. Juste une chose par rapport, il y a deux choses à dire sur l'ode maritime. Je vais commencer après, je parlerai de la deuxième. Là, on peut parler. Il y a le phénomène de l'orphisme. Alors, l'orphisme, c'est quelque chose de très français avec Baudelaire, hein, pas Baudelaire, pardon, excusez-moi, avec Florent, aide-moi, j'ai un trou.
Je ne sais pas ce que tu veux dire, donc.
Celui qui a été blessé pour la Première Guerre mondiale.
Apollinaire, oui, ça joue.
Et ça, c'est toujours ma paralexie. Je dis un nom pour un autre.
Apollinaire.
Et ça, c'est pas par hasard que la revue s'est appelée Orphée. Ça nous amène directement à un deuxième point, qui est le sensationnisme qui est créé par Harold Camp, donc par l'hétéronyme Harold Camp, dans le cadre de la revue Orphée. Ça a été publié dans Orphée en 1916.
Alors, rappelons qu'Orphée, c'était quand même une revue, c'était la revue futuriste.
Exactement, mais le sensationnisme dérive de l'orphisme. L'orphisme, en peinture, par exemple, et c'est très patent chez Madeira de Sousa Cardoso, par exemple, un grand peintre portugais cubiste, c'est Delaunay, c'est l'application de couleurs pures. C'est qui est proche du fauvisme aussi.
Mais d'ailleurs, Delaunay, ils reconnaissent l'influence d'Amadeo de Sousa Cardoso.
Exactement, et vice-versa, ils étaient très amis. D'ailleurs, les Delaunay ont passé la Première Guerre mondiale au Portugal chez Amadeo de Sousa Cardoso. Et donc, il y a l'introduction de ces sensations pures, hein, par à travers l'influence de l'orphisme. Et on va parler après plus longuement par rapport au sensationnisme qui dérive directement de l'orphisme.
On va lire d'abord un petit extrait pour se mettre en jambes. Alors je rappelle quand même que l'édition de référence pour moi, pour les œuvres poétiques d'Alvaro de Campos, où il y a cette ode maritime, c'est celle qui a été publiée chez Christian Bourgois dans l'excellente traduction de Michel Chandaigne et Pierre Léglise-Costa, qui est un ami de Casamadis, qu'on a d'ailleurs reçu à Divergence au mois de décembre dernier et qui suit de très près tout ce que l'on fait à Casamadis. Voilà, un petit clin d'œil à M. Pierre Léglise-Costa.
Et à Michel Chandaigne.
Et à Michel Chandaigne, bien sûr. Qu'on n'a pas reçu encore, lui, sur Divergence. On essaye de le faire venir à Montpellier, mais c'est un homme très occupé. Il fait plein de choses pour le Portugal. Il a une librairie, il est éditeur, il est traducteur, il est imprimeur. Quelqu'un de tout à fait pluridisciplinaire, on va dire. Un petit extrait de cette ode maritime. On va commencer par le début. Seul, sur le quai désert en ce matin d'été, je regarde vers la barre, je regarde vers l'indéfini, je regarde et je me réjouis de voir, petit, noir et clair, un paquebot qui entre. Il vient, encore distant, très net, classique à sa manière. Dans l'air lointain, il laisse derrière lui l'ourlet vain de sa fumée. Il entre lentement. Le matin entre avec lui, et sur le fleuve s'éveille ici et partout la vie maritime. Les voiles sont hissées, des remorqueurs avancent, de petites embarcations surgissent à l'ombre des navires. Il y a comme une brise. Mais mon âme demeure avec ce que je vois le moins, avec le paquebot qui entre, car il se trouve avec la distance, avec le matin, avec le sens maritime de cette heure, avec la douceur douloureuse qui monte en moi comme la nausée, comme une envie de vomir, mais dans l'esprit. Je regarde le paquebot de loin, avec une grande indépendance de l'âme, et à l'intérieur de moi, une roue commence à tourner, lentement. Les paquebots qui le matin franchissent la barre apportent à mes yeux le mystère joyeux et triste de celui qui arrive et qui s'en va. Ils portent en eux le souvenir de quais lointains, d'autres moments, d'une autre façon d'être de cette même humanité dans d'autres ports. Tout accostage, tout émarrage de navire, et je le sens en moi comme si c'était mon propre sang, est inconsciemment symbolique, terriblement menaçant de significations métaphysiques qui perturbent au fond de moi celui que je fus. Ah, le quai tout entier est une nostalgie de pierre. Et lorsque le navire se détache du quai et que l'on aperçoit d'un seul coup qu'un espace s'est ouvert entre le navire et le quai, me saisit, je ne sais pourquoi, une angoisse toute neuve, une brume de sentiments de tristesse qui brille au soleil de mes angoisses satinées de gazon, comme la première fenêtre qui vient frapper l'aurore et qui m'assiège comme le souvenir d'une autre personne, laquelle serait mystérieusement à moi. Ah, qui sait ? Qui sait ? Si jadis je ne suis pas déjà parti, avant moi d'un quai, si je n'ai pas déjà quitté, navire sous le soleil oblique de l'aurore, une autre sorte de port ? Qui sait si je n'ai pas déjà quitté, avant l'heure du monde extérieur tel que je le vois, resplendit à mes yeux, le grand quai plein de peu de gens, d'une grande ville à demi éveillée, d'une énorme ville hypertrophiée, apoplectique et commerciale, autant qu'il est possible hors de l'espace et du temps. Oui, d'un quai en quelque sorte matériel, réel, un quai visible en moi en tant que tel, un quai pour de vrai, le quai absolu dont le modèle inconsciemment imité, insensiblement évoqué, nous a fait construire, à nous les hommes, nos propres quais de pierre actuels sur les eaux bien réelles, lesquels, une fois construits, apparaissent soudain, choses de réalité, esprit, chose, entité en pierre, âme, à certains de nos instants de sentiments racines, lorsque dans le monde extérieur s'ouvre comme une porte, et que, sans que rien ne change, tout se révèle divers. Ah ! Le grand quai que nous avons quitté en navire-nation, le grand quai antérieur, éternel et divin. De quel port ? En quelles eaux ? Et pourquoi pensais-je cela ? Grand quai comme les autres quais, mais aussi l'unique, comme eux, dès l'aube, toujours envahi par des silences et plein de rumeurs, s'épanouissant avec le matin dans le vacarme des grues et les arrivées des trains de marchandises, sous le nuage opaque, fortuit et léger, des fumées d'usines proches qui le noircissent de luisantes poussières de charbon, comme s'il était l'ombre d'un nuage qui passe sur l'eau sombre. Ah, aux heures couleur de silence et d'angoisse, quelle essentialité de mystère et de sens figée dans la divine extase révélatrice ? N'est-elle pas le pont entre un quai quelconque et le quai ? Quai noir, obscurément réfléchi dans les eaux immobiles, agitation à bord des navires, eau amérante et instable des gens qui s'embarquent, des passagers symboliques qui ne font que passer, avec lesquels rien ne dure, car lorsque le navire revient mouillé au port, il y a toujours quelques changements à bord. Oh, fugue continuelle, départ, ivresse du divers, âme éternelle des navigateurs et des navigations, coque par les eaux lentement réfléchie quand le navire s'éloigne du port. Flotter telle une âme de vie, s'en aller comme une voix, vivre l'instant en vibrant sur des eaux éternelles. S'éveiller à des jours plus immédiats que les jours de l'Europe, vers des ports mystérieux sur la solitude de la mer, doubler des caps lointains vers les subits et vagues paysages d'innombrables versants étonnés. Ah, les plages lointaines, les quais vus de loin, et puis les plages proches, les quais vus de près, le mystère de chaque départ, le mystère de chaque arrivée, la douloureuse instabilité, l'incompréhensibilité de cet impossible univers, à chaque heure maritime ressentie un peu plus sur sa propre peau. Le sanglot absurde que versent nos âmes sur les étendues des différentes mers parsemées d'îles au loin, sur les îles tout au loin des côtes laissées en arrière, sur la netteté croissante des ports avec leurs maisons et leurs habitants, devant le navire qui s'approche.
Sombra de uma saudade, perfis de amor antigo na prisão. levar para longe distâncias que nos habitam. Se vai connosco a memória de tantas coisas que ficam. Mas partir não é morrer, é só mudar de lugar. Quando o passado persiste em não nos abandonar, partir vai-te comigo. Mas quando cheguei, cheguei e senti que tinha deixado parte do que sou junto de ti. Se partir fosse partir ao meio todo o passado, talvez quem parta fugisse de tudo o que fez errado. A partir por não estar bem, a partir para estar melhor, há quem fuja de si mesmo e há quem parta por amor. Mas partir não é morrer, é só mudar de lugar. Quando o passado persiste em não nos abandonar, partir vai-te comigo. Mas quando cheguei, cheguei e senti que tinha deixado parte do que sou junto de ti. Comigo, mas quando cheguei, cheguei e senti que tinha deixado parte do que sou junto de ti.
Filigrane imprécis sur Divergence FM avec Misia qui nous accompagne ce midi pour cette émission consacrée aux cultures de langue portugaise. Nous parlons ce matin entre autres de Fernando Pessoa, d'Alvaro do Campos et de L'Ode maritime qui va être jouée au Théâtre des 13 vents à partir du 7 avril. Débrouillez-vous pour avoir des places parce que comme on le disait tout à l'heure, c'est a priori complet.
Voilà. Alors, on a bien, dans l'extrait, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se crée là. À partir d'un simple navire qui entre dans le port, on observe le port. Il y avait un courant à ce moment-là, qui était le courant majeur, qui était le saudosisme. Hein, et le sensationnisme va se poser comme antagonique à ce mouvement, justement. Ce n'est pas d'une réalité on retire des sensations, c'est de sensations on crée une réalité. Et donc, de ce navire, de ce paysage qu'il observe, il va créer tout un monde, tout un univers. Et c'est là qui est la nouveauté. Après, il y a d'autres nouveautés et des choses qui vont annoncer d'autres choses en art qui seront très importantes au XXe siècle, qui sont déjà dans Alvaro Campos. Mmh. Par exemple, le futurisme, déjà. L'amour pour la machine, pour la modernité. Mais une modernité qui crée des univers, hein, des univers qui ne sont pas forcément des odes au futur, dans béat au futur. Il y a toujours quelque chose de critique là-dedans. Quelque chose. Par exemple, l'ode maritime n'est pas une ode. Qui fait l'apologie 100% de pur et simple de l'empire colonial ou des voyages maritimes. Il est extrêmement critique.
Et même très méchant.
Très méchant. Ces braves aventuriers se transforment en pirates, en massacreurs,
en assassins,
etc. Donc, c'est autre chose aussi, c'est le constructivisme qui sera très important dans l'Union soviétique, par exemple, qui part aussi de cette ode à la machine. Il y a tout le XXe siècle est contenu dans le Weltkampf. Du moins jusqu'aux années 60 et même plus tard. Puisque, par exemple, l'orphisme est à l'origine de l'abstraction, par l'influence qu'il a eue sur Kandinsky. Le constructivisme a amené, après, par exemple, les nouveaux réalistes des années 60 en France, Tanguy, etc., César, sont les héritiers du constructivisme et aussi de la cinétique créée par les peintres orphiques. Donc, il faut absolument découvrir Albert Camps et Fernand Pessoa par Albert Camps parce que c'est tout le XXe siècle qui est en train de naître là.
Mais d'ailleurs, la première œuvre d'Alvaro de Campos, alias donc Fernando Pessoa, mais la première œuvre écrite, signée par Alvaro de Campos, c'est une ode, ce qu'il appelait l'ode triomphale, et c'est le triomphe de la machine. On essaiera d'en lire peut-être un extrait, parce que c'est une ode que j'adore, un extrait la semaine prochaine.
Mais on ne l'a pas fait la semaine dernière.
Non, je n'avais pas eu le temps.
Ah oui, pardon, excuse-moi.
J'avais pas eu le temps, ça sera la semaine prochaine, donc l'ode triomphale. Mais je m'aperçois que l'heure tourne à parler de Fernando Pessoa, on ne va pas passer le temps. Donc cette ode maritime, si vous avez l'occasion, si vous arrivez à avoir des places, il va y avoir donc une version théâtrale qui va être au 13 vent du 7 au 10 avril dans une mise en scène de Claude Régis. Alors comme on disait tout à l'heure, c'est a priori complet, mais essayez de vous débrouiller en venant le soir même, en vous mettant sur liste d'attente, parce qu'il y a toujours des gens qui sont grippés, sont malades, sont enrhumés, qui ne peuvent pas assister, donc il y a des places qui peuvent se libérer. Voilà, on va se quitter en rappelant tout de même que le 1er mai, c'est pas seulement la fête du travail et des travailleurs, mais ça sera aussi l'occasion pour Casamadis de faire un repas pour célébrer la République et l'indépendance des pays africains lusophones, comme on le fait tous les ans. Donc cette année, ça sera le 1er mai, à l'espace Jacques Ier d'Aragon, 117 rue des États Généraux, donc à notre local, au local de Casamadis. Et il faut s'inscrire dès maintenant. Tu peux nous rappeler le téléphone ?
Nous y sommes tous les jours de 16h à 18h, sinon par le téléphone 04 67 64 02 75.
Voilà, et le repas est à 15€, le nombre de places est limité et tous les gens qui ont assisté à nos repas s'en souviennent encore. Voilà, filigrane, je vais remercier quand même Manuel Plaza qui nous a accompagné à la technique ce matin. Eh bien, filigrane, c'est terminé. Merci Tito de nous avoir éclairé de tes lumières lusophiles, lusophones.
Et on se retrouve. Il faut bien combler le manque d'informations qu'il y a à Montpellier sur la littérature portugaise.
Voilà, on ne citera pas les responsables, mais tout le monde aura compris. Voilà, très bonne semaine à tous, très bonne semaine lusophone, et à la semaine prochaine. Merci, au revoir. Numa raiva.